Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Très heureux de vous retrouver. On commence comme toujours par la première phrase d'un roman culte. C'est un mois de septembre dédié à Simenon cette année. L'écrivain est mort il y a 30 ans. J'ai donc choisi aujourd'hui Maigret. Et voici donc la toute première phrase de la première enquête de Maigret, Piètre le Letton. Le commissaire Maigret de la première brigade mobile leva la tête, eut l'impression que le ronflement du poêle de fonte planté au milieu de son bureau et relié au plafond par un gros tuyau noir faiblissait. Piètre le Letton, donc publié en 1931, première enquête de Maigret, et c'est fascinant de voir comment en une seule phrase, tout de suite, on cerne le personnage, cette force tranquille qu'était, qui reste, Maigret. Des romans, nous en découvrirons plein d'autres chez Éric Nehoff tout à l'heure. Le critique littéraire insolent et drôle nous fera visiter sa bibliothèque. L'équipe des libraires de l'émission se tient prête pour de bonnes idées de lecture. Et nous terminerons bien sûr avec la chronique jeunesse de Victor Dolande. Mais d'abord, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre.
La Voix est libre. Nicolas Carreau.
C'est le propre des écrivains, observer les comportements humains, les habitudes, les petits travers, les tocs de la société et les restituer en les distillant dans leur roman. Ça donne une vision du monde. Et s'il n'y a pas ça, bah c'est juste un type qui raconte une histoire. Notre invité, lui, s'en est fait une spécialité. Il compile depuis des années ses observations du monde. Dans la première gorgée de bière, c'était les petits plaisirs. On lui doit aussi un recueil de phrases quotidiennes extrêmement agaçantes. Dans la perfidie des petites phrases, c'est un chercheur de pépites. Souvent, en le lisant, on se dit « Ah ben oui, c'est vrai ça ». Et puis, si on a quelqu'un à côté de nous, on lui lit un extrait en général. Ça peut être agaçant pour lui. Mais c'est que ses habitudes humaines, on ne les voit plus ou on ne prend plus la peine de les regarder. Heureusement, il est là. Il publie son nouveau livre « L'extase du selfie et autres gestes qui nous disent au seuil ». Bonjour Philippe Delerme.
Bonjour.
Ça me fait plaisir de vous revoir. Les gestes, donc, cette fois, pourquoi ? Est-ce qu'il y a un geste en particulier qui vous a décidé à entreprendre ce nouveau recueil ?
Ah oui, ça a carrément commencé avec un geste précis qui a été un geste lié au smartphone. Il y a d'ailleurs trois textes liés au smartphone.
Ah, on va en reparler, ça, les nouvelles technologies.
Qui a tenu beaucoup de place dans nos vies. Et le premier, c'était un geste que je trouve assez joli. C'est cette façon d'effleurer avec le bout de l'index la paroi, comme la surface du smartphone, pour faire surgir des images. Moi, je le vois faire à des gens, parce que moi, j'ai un téléphone qui est tellement pourri qu'il n'y a pas de photo. Mais donc, je le vois faire autour de moi, et je trouve ça assez joli, cette façon de faire surgir les gens qu'on aime, les moments qu'on a aimés, en les effleurant. Et en un fois, on se dit, c'est ma vie, mais en même temps, il y a une façon de presque la respecter, de prendre un peu de distance, parce qu'elle est quand même de l'autre côté de la paroi. Enfin voilà, je trouve que c'est un joli geste. Et ça m'a donné cette idée que finalement, oui, à travers les gestes, on pouvait dire beaucoup d'une espèce d'éternel humain que j'essaye de traquer, en fait, oui, dans mon observation de l'existence.
Est-ce qu'on peut jauger quelqu'un à sa gestuelle, l'évaluer ? Qu'est-ce qu'ils disent de nous, ces gestes ? Est-ce qu'ils nous trahissent éventuellement ?
Éventuellement, ils peuvent nous trahir. C'est vrai qu'il y a, comme souvent dans les recueils que j'écris, un petit mélange, et de plus en plus d'ailleurs, d'ironie, de tendresse. Voilà, tout ça c'est mêlé. Ça peut être un geste consolant pour quelqu'un qui a du chagrin, mais ça peut être aussi un geste qui m'irrite ou qui m'amuse. C'est vrai que quand je vois les gars, parce que c'est presque souvent, presque toujours des hommes, je crois que j'ai vu une ou deux femmes faire ça, mais conduire, vous savez, avec la paume de la main.
Avec la paume de la main.
Avec cette terre comme ça. Tellement sûr de soi que ça donne. Alors que ça semble un geste, là aussi, presque un effleurement, mais du genre, hein, moi, je suis facile, bon, décontracte, enfin, et bon.
Et en réalité, la main est très appuyée sur le volant, ouais. C'est très compliqué à faire.
Ah oui, c'est sûr, c'est surprenant. C'est à la fois, c'est censé être subtil, et c'est un petit côté bestial, ça a l'air de dire aussi, je trouve, ben, toutes les femmes ont trouvé leur permis de conduire dans un baril de lessive, quoi. Ça veut dire, moi, je suis plus costaud, je suis plus fort. C'est frimeur, quand même.
Alors, on va les regarder ensemble, ces gestes. Il y a passer la main sur un livre aussi, que j'aime beaucoup. Il y a le vapotage. Ils sont plus ou moins poétiques, plus ou moins plaisants, beaux ou agaçants. Et comme on aborde la fin de l'été, je pense qu'il faut quand même d'urgence parler d'un geste de pêcheur qui consiste à ferrer le poisson. Est-ce que vous pouvez expliquer aux profanes de la pêche ce que c'est que ferrer un poisson et quel est le geste qui va avec ?
Oui, c'est un geste un peu curieux parce qu'il est un peu paradoxal. Pour moi, il est lié à à une pêche qui était tranquille, puisque je passais toutes mes vacances dans le sud-ouest de la France, où mes quatre grands-parents étaient paysans, et on pouvait pêcher soit dans la Garonne, soit dans le canal du Midi, qui est un endroit extrêmement paisible, qu'a chanté Claude Nougaro dans sa chanson Toulouse. Et là, il y avait ces bouchons, que je m'étonne parfois de retrouver dans les boutiques de pêche, la même couleur,
un mélange
de vert émeraude et puis de couleur un peu rouge vermillon, comme ça. Et ce bouchon, en fait, c'est pour pratiquer une pêche où quand le bouchon se dresse et on attend qu'il se passe quelque chose, on n'a pas envie que non plus qu'il y ait une touche toutes les 10 secondes, mais il faut qu'il y ait un intervalle, il faut qu'il y ait une attente, une tranquillité. Il y a aussi une poésie de cet endroit, sous les platanes, c'est beau. Et en même temps, on attend que tchouk, 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 il se passe quelque chose, que le bouchon s'enfonce. Et alors là, il y a un moment où il faut ferrer. Et ferrer, c'est quand même un geste très traître, puisqu'on sait qu'il ne faut pas envoyer évidemment la ligne baladée dans les branches à côté. Mais ça se fait, c'est quand même assez sauvage et pervers. C'est-à-dire, on tire un peu sur le côté d'un coup très sec.
Pour bien enfoncer l'hameçon dans la bouche du poisson,
ce qui est un geste immonde quand on y pense. Et il y a une espèce de brutalité qui se mêle à la poésie de l'ambiance générale du lieu. Et voilà, c'est un geste de rapt comme ça, dans une eau dont on a l'impression qu'elle devient un petit peu trouble à ce moment-là, comme sont aussi nos sentiments par rapport à la chose qu'on est en train de faire.
Ça, c'est la pêche classique, traditionnelle au bouchon. Mais moi, je vous attendais aussi sur la pêche à la mouche. C'est hyper delermien, la pêche à la mouche.
Ah, c'est sûrement trop technique pour moi, trop compliqué. Je pratiquais une autre pêche qui était justement dans la Garonne, qui était un fleuve qui, à l'époque, coulait depuis un barrage. Mais là, qui était un peu sportif, puisqu'on ramassait des larves d'éphémères, des popoïs sous les galets. Et là, il fallait descendre dans l'eau à mi-cuisse. Et c'était un autre type de poisson qu'on pêchait aussi. Mais la pêche à la mouche, oui, il y a tout un folklore artistique autour de la pêche à la mouche et au milieu coule une rivière, etc. Mais non, moi, j'étais pas assez doué techniquement, je pense.
Et vous êtes sensible d'ailleurs à toute cette littérature de « Et au milieu coule une rivière », c'est un livre d'abord, et puis toute cette littérature du Montana, de l'écriture, on appelle ça du natural writing.
Oui, je suis d'autant plus sensible que là, ça recoupe un thème sur lequel je suis en train d'écrire en ce moment, c'est que il y a un certain nombre de lieux sur Terre dont je me suis dit que je n'irai jamais, et qui sont d'autant plus beaux que je n'irai pas. Et je me méfie un petit peu maintenant. J'ai pas envie de faire un voyage ou dans un pays qui me plairait trop, parce que je pense que j'ai pas un âge où j'ai le temps d'y avoir des habitudes et d'y revenir assez. Et donc je préfère m'en tenir à ce que j'aime déjà, mais par contre à continuer à rêver beaucoup et à fantasmer ce que je ne connais pas. Et je trouve que ça fait partie vraiment de la richesse de la vie quand on prend un peu d'âge. Vous avoir aussi un certain nombre comme ça de fantasmes préservés qui se sont enrichis tout au long de l'existence. New York, le Montana, ouais, ça en fait partie.
Ah oui, c'est génial ça. Faut que j'en sache plus, là ça m'intéresse. Vous avez décidé qu'il y a des endroits où vous n'irez pas?
Oui. Ouais, New York, notamment, ça a été vraiment le cas parce que j'ai eu pas mal de sollicitations pour y aller, pour des raisons littéraires. Et puis, il y a même une fois quelqu'un qui ne savait que je ne prenais pas trop l'avion qui m'a dit « Mais tu peux même y aller en bateau, c'est pas un problème. » Et non, en fait, je lui ai répondu « Mais non, parce que ça, c'est un thème dont je sais que ça sera un livre un jour, le thème des choses comme ça qu'on a mythifiées sans justement vouloir les déflorer par... Voilà, le fait d'arriver, de se dire qu'on a trop chaud, qu'il y a un problème pour trouver un taxi. Enfin, voilà. Je préfère les garder comme ça, vierges.
Et pourtant, il y a des endroits magnifiques que vous adorez, dont vous parlez dans quasiment chacun de vos livres, comme Venise.
Ah oui.
Ça, vous y êtes allé et allez encore. Est-ce que vous auriez peut-être, à la limite, préféré ne jamais y aller?
Non, parce que de Venise, j'avais que des images plutôt négatives. La lune de miel, des choses un peu sirupeuses et trop sucrées. Et c'est en y allant, au contraire, que je me suis mis à tomber amoureux de cette ville où, en fait, on peut être tout seul si on en a envie. Et maintenant, c'est mon voyage préféré. Je le fais deux ou trois fois par an. D'ailleurs, dans le recueil, il y a des textes aussi sur Venise, parce que c'est un endroit qui fait vraiment partie de ma vie.
Restez avec nous, Philippe Delerme, dans un instant. Et je fais un geste comme ça pour vous arrêter. Dans un instant, nous allons regarder les autres gestes du quotidien avec vous. À tout de suite.
Europe 1. 14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre. Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est libre avec notre invité Philippe Delerme et son nouveau livre « L'extase du selfie et autres gestes qui nous disent ». Il compile les gestes du quotidien qui peuvent être poétiques, agaçants ou qui l'intéressent simplement. Et vous commencez par le vapotage et c'est vrai qu'on se dit que c'est du pain béni pour vous. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, cette cigarette électronique?
Bah, c'est du pain béni parce que ça... C'est un geste qui, par défaut, réveille toute la gestuelle qui est liée à la vraie cigarette. Et c'est vrai que c'est quand même un ersatz, le vapotage, et le geste même. Je trouve qu'on biberonne plutôt son objet plutôt qu'on ne fume, en fait. C'est vrai que, par comparaison, ça fait allusion à l'élégance et à la place qu'avait la cigarette dans une vie récente. Les paquets de cigarettes aussi qui faisaient rêver les ados, ouais, et qui comptaient beaucoup. Maintenant, quand on va dans un tabac et qu'on voit toutes les muqueuses rongées proposées par les paquets de cigarettes, c'est quand même assez dissuasif. En même temps, ça ne l'est pas tellement, puisque je pense que les gens continuent à fumer. Mais c'est vrai que surtout, ça fait penser à cette mythologie qui est à la fois féminine et masculine. Je dis dans le texte qu'on y voit à la fois Humphrey Bogart et Lorraine Bacall. C'est vrai qu'il y avait ce geste souvent des femmes très élégantes. Puis par contre, les hommes, qui à une époque avaient presque toujours la cigarette rivée à la bouche, au point que certains avaient même une espèce de petit trou dans la lèvre. Et c'est vrai que c'est aussi à une époque des médias, une époque où il y avait des gens qui fumaient dans les émissions de télé, que les émissions vivantes de Bernard Pivot et de Michel Pollack étaient dominées par une espèce de nuage atomique dont on avait l'impression qu'il était un nuage atomique d'intelligence, parce que c'était les esprits qui s'échauffaient, qui parlaient.
Ouais, mais c'était super dangereux.
Oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est pas. Bien sûr, moi, je suis fumeur. Alors, tout à fait iconoclaste, puisque je peux fumer une fois par mois. J'ai plaisir à le faire, mais j'ai aucune accoutumance.
Des cigarettes ?
Cigarettes ou n'importe quoi, ou la pipe ou le cigare. Quelque chose pour être avec les autres en général.
Mais pas de cigarette électronique ?
Pas de cigarette. Alors ça me tente absolument pas, c'est vrai.
Parce que ça vous amuse aussi, cette cigarette électronique?
Ça m'amuse, je trouve qu'elle est liée quand même à une espèce de retrait comme ça, qui est un peu janséniste, pour un plaisir. Ça me semble un plaisir un peu froid, un peu dissimulé, un peu raté.
Mmh. Il y a un autre geste qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. Il faut d'abord avoir cueilli des groseilles, mais dans votre livre, il y a un chapitre intitulé, et c'est ce titre qui est magnifique, « La torsion des groseilles ».
Ah oui, ça c'est un geste assez, pour le coup, assez brutal, et là aussi c'est un peu paradoxal, parce que c'est lié à deux femmes que j'aime, et qui sont mortes aujourd'hui, ma mère et ma grand-mère, et que je voyais de temps en temps, comme ça, dans la cuisine de la ferme familiale, tordre un linge blanc dans lequel il y avait des groseilles, pour en extraire tout le sucre pour faire la gelée de groseilles. Et il y avait une espèce de violence dans leur geste, ces femmes si douces, et puis il y avait aussi cette image comme ça du linge blanc qui se teinte de sang, qui forcément est lié à des connotations qu'on peut imaginer, qui sont liées aussi à une féminité, à une espèce... Il y avait un côté un petit peu de force aussi, parce qu'il y avait une façon d'étrangler le torchon comme ça pour en tirer le suc. Et c'était assez troublant et impressionnant. Ouais.
Il faut qu'on parle du caddie aussi, Philippe Delerme, ça c'est très important.
Ah oui, le caddie, oui, c'est rigolo, parce que le caddie, c'est vrai qu'en fait, c'est lui qui nous domine, en fait, parce que... C'est une espèce de ventre d'excroissance supplémentaire qu'on a devant soi, et dans lequel on fait tomber plein de choses dont on n'a pas besoin. Mais en même temps, ce qui est rigolo, c'est qu'il est fait pour être longitudinal, et avec ses petites roulettes qui fonctionnent très bien, mais dès qu'on veut lui faire prendre un virage, par contre, il y a souvent un problème qui se pose, et qui est un peu un problème symbolique, c'est-à-dire que le caddie, il n'est pas fait pour tourner, il n'est pas fait pour être souple, il est fait pour nous faire consommer tout droit et à fond. Quoi.
Est-ce qu'on peut encore jouer ces gestes naturellement quand on les observe comme vous, comme ça? Est-ce qu'à force de bien les connaître, d'avoir tellement conscience de ces gestes, vous pouvez encore les faire naturellement, ces gestes-là?
Ah oui, parce que c'est le propre de mes sujets d'écriture et de mon rapport à l'écriture, c'est-à-dire que je n'ai jamais l'impression d'être en train de chercher un sujet, d'être sur le motif, je vis. J'ai pas de carnet sur moi, et c'est simplement bien après que je me dis, alors dans un train ou dans mon bureau, ah oui, tiens, ça pourrait être un sujet de texte. Alors, ce qui est pour moi le critère, c'est toujours que ça soit quelque chose qui soit vraiment la vie d'aujourd'hui, puisque c'est ce que j'ai sous les yeux, ce que je remarque, mais en même temps, que ça soit un peu décanté et que je me dise, ah oui, là, c'est vraiment un sujet, il y a quelque chose à en dire. En tout cas, il me semble que derrière, il y a une vérité comme ça, un peu de l'homme éternel, de l'humain éternel, qui, voilà, ça paraît un peu immodeste de dire ça, parce que souvent, au contraire, on me dit, mais vous avez une écriture modeste, vous avez des sujets modestes. Moi, je ne trouve pas du tout que ça soit modeste. C'est une façon simplement, c'est d'abord le fait de vouloir faire du grand avec du tout petit. Je ne vois pas ce que ça a de modeste. C'est plutôt au contraire, plutôt très orgueilleux. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est que la vie la plus contemporaine a ses résonances aussi dans l'éternel humain. Voilà, on peut trouver la même chose dans les siècles passés, dans les écrivains dits classiques de l'époque classique. C'est vrai que j'ai écrit un texte, par exemple, sur le fait que sur une table basse, parfois, quand les invités viennent, on laisse les bouquins qui sont sur la table basse, pas n'importe comment tout à fait, ouais. Un peu en fonction des gens qui vont venir. Enfin,
on se montre un peu.
On se montre un peu, ou en tout cas, il y a des gaffes qu'on évite aussi par rapport aux gens qui viennent. Et c'est drôle parce que La Bruyère, par exemple, au XVIIe siècle, il disait qu'il parle d'un personnage qui s'appelle Onufre et qui laisse très en évidence des livres comme L'année Sainte, etc., des livres très très religieux. Et puis il y a une petite phrase que je trouve délicieuse qui dit « D'autres livres sont sous la clé ». Et ça, c'est vraiment cette façon comme ça, très concise, de dire un truc qu'on imagine très très bien. Pourquoi d'autres livres ont été cachés? Alors, l'imagination commence à se débander. Et ça, les humains restent les mêmes. Et ça, c'est quand même assez fascinant de pouvoir regarder le monde, se dire « je suis vraiment dans le monde où je suis » et en même temps, les hommes sont toujours les mêmes.
Quels sont vos gestes d'écriture? Est-ce que vous avez des routines d'écriture?
J'ai un geste d'écriture. J'écris de la main droite, je suis gaucher en fait. Mais j'écris très mal. C'est ma petite maman qui était institutrice au cours préparatoire qui m'a obligé à écrire de la main droite.
Aïe.
Et donc, je faisais partie des gauchers contrariés. Et j'écris très mal. Mais j'ai ce geste comme ça que je suis en train de faire, c'est qui n'est pas très cinématographique, mais comme quand on claque des doigts, mais doucement, de caresser du bout des doigts une espèce de substance. Et parce que pour moi, je pense que c'est symbolique du fait que je veux que ma phrase ait une espèce de sensualité, qu'elle soit presque physique, et presque involontairement, pendant que j'écris, de la main droite, de la main gauche, je fais ce geste-là qui je pense, peut être psychanalysé en disant « bah oui, c'est vouloir faire surgir quelque chose qui a une espèce de réalité matérielle, en fait. »
Ouais, je suis pas spécialiste en neurosciences, mais je me dis aussi que, comme vous êtes en train d'écrire, votre cerveau déclenche votre main gauche, malgré vous aussi, pour écrire.
Ah oui, c'est possible. Ah oui, c'est vrai. Elle est peut-être jalouse, en fait.
Mais donc, vous n'écrivez pas à l'ordinateur?
Non, j'écris dans des... J'ai grand plaisir à choisir à chaque fois un cahier différent, mais différent, pour que chaque projet soit lié à une couleur, un ton général du cahier. Et après, écoutez, j'ai encore une machine à écrire. Sur les brocantes, je trouve encore des recherches pour ma machine à écrire. Bon, je vais passer au traitement de texte très bientôt.
Bravo, merci Philippe Delerme, mais surtout ne changez rien. Je rappelle le titre de votre livre, L'extase du selfie et autres gestes qui nous disent, c'est au seuil, c'est extrêmement poétique, très beau comme toujours. Avec vous Philippe Delerme, merci d'être venu.
Un grand plaisir.
Europe 1.
Dans un instant, chers auditeurs, c'est à vous de me dire quel est votre grand livre. Cette semaine, c'est Vincent de Nantes qui se prête au jeu. Il va nous parler d'un grand roman redécouvert il y a quelques années, Le nazi et le barbier d'Edgar Isenrath. Un grand roman, génial, à tout de suite.
Europe 1.
La voix est libre.
Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix et Livre, chaque semaine je vous demande quel livre a changé votre vie ou quel roman vous a marqué. Ça peut être un grand classique, un livre culte, un roman inconnu. Tout est bon pour peu qu'il vous ait marqué. Cette semaine c'est donc Vincent de Nantes. Bonjour Vincent.
Bonjour Nicolas.
Bon, vous avez choisi un très beau livre, Le nazi et le barbier d'Edgar Isenrath. Racontez-nous un peu ce livre et dites-nous pourquoi il vous a marqué.
Très bien. Alors, écoutez, Edgar Isenrath, en plus, bon, c'est un auteur qui est décédé en fin d'année 2018, donc je pense que le temps est bon de le relire aujourd'hui. Alors, Le nazi et le barbier, c'est un roman sur la Shoah qu'il faut resituer alors, dans la littérature sur le sujet des années 70, début 70. Alors, en substance, c'est l'histoire de Max Schulz, qui est un Allemand qui a rien, comme il le précise dans les premières pages, qui grandit dans un quartier enfin de compagnie plus ou moins juive, et qui devient d'abord très copain avec Itzig Finkelstein, donc comme son nom l'indique, d'origine juive. Max Schulz, il lui arrive différentes aventures que je ne vais pas creuser. Il fait une formation de barbier. Il s'engage dans la SS dans les années 30. Continue comme bourreau dans les camps de la mort. Il a l'occasion d'y voir passer son maintenant plutôt ex-ami Dil Finkelstein et toute sa famille qui malheureusement n'en ressortent pas. Et là où l'histoire devient originale, c'est qu'ensuite, une fois que la guerre va sur sa fin avec la défaite du nazisme, il décide en fait de retourner sa veste, de prendre l'identité de son ancien camarade Finkelstein et donc de continuer son parcours. parcours en tant que juif, d'abord en tant que barbier ensuite pour revenir à ses premières amours, et ensuite en tant que sioniste, parce qu'on va le, suivre vers Israël, on va le suivre dans ses affrontements avec, alors à l'époque, les Anglais, pour défendre l'État d'Israël. Et c'est sur cette note, bon, je ne vais pas tout raconter, mais qui va continuer avec cette dynamique sioniste de plus en plus exacerbée.
C'est un livre qu'on a redécouvert il y a 5-6 ans. Pourquoi il est réapparu comme ça et pourquoi il vous a marqué ?
Alors, c'est effectivement ce qui est amusant, parce que quand il a été écrit, bon, il a été écrit à la fin des années 60 par Isselrath, en allemand, hein, Isselrath est allemand, écrit en allemand, mais il a d'abord été publié aux États-Unis en 72, sauf erreur. Il a eu un beau succès là-bas. Mais par contre, là où il a peu rencontré de succès, c'était en Allemagne, parce qu'effectivement, c'est qu'en 77 qu'il a réussi à trouver un petit éditeur en Allemagne pour l'éditer en langue allemande. Et il a fait scandale. Il a fait scandale parce que clairement, c'est un roman qui se décrit comme une satire. Hein. L'idée, c'est d'arriver à parler d'un sujet grave, mais sans vraiment se prendre au sérieux, avec une langue qui rappelle un peu Bukowski dans certains éléments. Et qui met une grosse place à l'humour noir. Autant dire que l'Allemagne post-guerre appréciait plutôt la littérature un peu plus larmoyante, qui expliquait que les soldats allemands avaient été forcés, que le peuple allemand était une victime à peu près au même titre que ses propres victimes, et refusait en fait que un juif qui a connu les ghettos durant la guerre, qui était Isselrath, n'adopte un autre point de vue.
On ne lui pardonne pas la légèreté avec laquelle il écrit pour parler d'un sujet terrible, quoi. Ce contraste-là, on ne l'accepte pas.
Non, parce que déjà, bon, c'était pas la mode à l'époque, on va dire. Enfin, si mode peut être un terme qu'on peut employer dans ce cas-là. Mais même, c'est vrai que c'est pas même aujourd'hui, c'est pas vraiment quelque chose qui depuis les années 70, a jamais été apprécié. On préfère parler de la Shoah avec une certaine gravité. Mais c'est là, justement, où je pense que les gens se trompent. Et c'est là, pour moi, qui fait l'intérêt de tout le livre du Nazi et du Barbier, mais aussi de l'œuvre d'Isselrath en général. C'est que cette légèreté est que de façade. Isselrath se moque, mais c'est aussi pour mieux évoquer. Alors pour ce roman, c'est la culpabilité, c'est la question du rachat, c'est jusqu'où peut aller un bourreau dans un sens et dans l'autre sens ensuite pour se racheter. Et par là même, c'est quand même assez intéressant, quoi, d'essayer d'évaluer quelles sont les responsabilités.
Et c'est vrai que c'est aussi un bel objet livre, avec cette couverture à la fois très colorée et très sombre. Edgar Isselrath, Le Nazi et le Barbier, c'est aux éditions Attila. Merci beaucoup, Vincent.
Merci à vous.
À bientôt.
Au revoir.
Merci beaucoup, Vincent. Si vous aussi, vous voulez partager le livre au centre de votre bibliothèque, celui que vous avez lu plusieurs fois, qui vous a marqué, qui vous a changé éventuellement, écrivez-nous, il existe plusieurs moyens. Envoyez-nous un mail avec votre numéro de téléphone et le livre dont vous voulez parler à l'adresse livre@europe1.fr. Sinon, un message sur la page de l'émission ou vous me contactez directement via Twitter. Nous attendons vos bonnes idées. Dans un instant, encore des livres. Nous partons visiter la bibliothèque du critique littéraire Éric Nehoff. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est Livre.
La Voix est Livre continue. Il est temps de quitter un peu ce studio. Le critique cinéma et critique littéraire du Figaro, Éric Nehoff, toujours mordant et spirituel, publie un livre chez Albin Michel, un pamphlet très cher cinéma français. Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère pour dire ce qu'il pense du cinéma français. Il nous a reçus chez lui pour visiter sa bibliothèque. Bonjour Éric Nehoff.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous, dans un appartement au rez-de-chaussée à Paris. Et quand on entre, on n'est pas déçu. Il y a un immense mur de livres, une bibliothèque géante. Et je sais que déjà que dans la pièce d'à côté, j'en vois d'ici, il y a beaucoup, beaucoup de livres aussi, et même beaucoup plus, je crois.
Oui, mais à côté, c'est la chambre, donc ce sont les livres de chevet.
Oui, c'est les plus intimes. On finira par ça. Il y a aussi des cadres, là, c'est très beau. Qu'est-ce que c'est ? Il y a une sorte de lettre de chez Gallimard, là, librairie Gallimard.
C'est une Roger lettre Nimier. De Nimier à Céline.
Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit ? Mon cher Louis, en fait, j'étais surtout en conférence avec la grippe. Notre comptable m'apprend que les choses sont en ordre à propos de Voyage au bout de la nuit, dans le livre de poche. Je sais également que vous lui avez téléphoné et vous n'avez pas eu tort, car ce comptable est une personne absolument sérieuse, ce qui est bien étonnant. J'attends René Bolloré pour m'amener chez vous. Il faut bien que les femmes servent d'alibi et de taxi.
Aujourd'hui, ça passerait mal, ça.
Où est-ce que vous avez trouvé ça?
C'est un ami qui me l'a offert pour un de mes anniversaires.
Comment elle est organisée, cette immense bibliothèque? Donc là, on est dans... il y a une cuisine ouverte, et il y a le salon avec un grand canapé, une table basse, et tout autour, donc, la bibliothèque avec des livres partout. Comment c'est organisé? Je vois beaucoup de cinéma ici.
Là, vous avez un tas de livres sur les réalisateurs de cinéma. C'est classé comme ça.
Il faut prendre une échelle. C'est 2,50
m, oui. Il faut prendre une échelle pour les attraper. Ouais.
Et vous y allez souvent, pêcher là-dedans?
Quand il y a un mort, surtout. Alors, comme c'est classé par ordre alphabétique, si c'est, son nom commence par les premières lettres de l'alphabet, là, je suis obligé de prendre l'escabeau. Si c'est quelqu'un dont le nom commence par S, je peux l'attraper en grimpant sur le canapé.
Ah ouais, il y a tout le monde. Il y a Jean Renoir, Eric Rohmer, John Ford.
Je garde ça depuis presque 40 ans maintenant.
C'est marrant parce qu'en voyant les noms, Godard, etc., on voit les films en même temps.
Ouais.
Ça fait un peu écran de cinéma. Sûr,
les livres de cinéma, c'est des choses qui deviennent assez vite introuvables, hein, qui ne sont pas rééditées. Et je conseille à tous les gens qui s'intéressent au cinéma, s'ils veulent la bio de quelqu'un, de l'acheter, même si c'est cher, même s'ils ne la lisent pas tout de suite, parce qu'après, c'est fini.
Vous êtes un peu maniaque, non? Parce que donc, les réalisateurs, c'est classé par ordre alphabétique. Et puis, si on tourne sur la gauche, il y a une très belle bibliothèque, très très bien rangée, avec les Pléiades toutes ensemble. J'imagine qu'elles sont aussi par ordre alphabétique.
Non, elles sont par ordre chronologique.
En dessous, il y a les Cahiers de Lerne, qui sont les très beaux cahiers, les très beaux livres grand format qui s'intéressent à un auteur en particulier. Mmh. Et au-dessus, il y a la collection bouquins. C'est bien rangé.
C'est par paresse, hein. C'est plus facile pour les retrouver. Et puis je trouve que c'est beau, les livres qui vont ensemble. Les Pléiades, on m'avait dit, mais non, c'est mieux de les mettre n'importe où, par ordre alphabétique avec les autres livres. Non, mais je trouve que ça fait un joli mur comme ça.
Et les Cahiers de Lerne, pourquoi vous avez une passion pour cette collection?
Parce que je connaissais Pierre-Guillaume de Roux et Constantin Tacou qui s'occupaient des Cahiers de Lerne. Et j'aime bien, sur les auteurs qui m'intéressent, avoir ces sommes, ces monographies, parce qu'il y a un tas de témoignages. Un des derniers que j'ai lu, c'est sur John Le Carré. Et il est vraiment épatant, celui-là.
Vous avez Modiano, Houellebecq, Camus, Pérec, Beauvoir, Nîmier, Romain Gary.
C'est pas mal.
C'est lequel, votre préféré?
Là-dedans, ce serait peut-être...
Comme Cahiers de Lerne et comme auteur, surtout.
Modiano, il y a beaucoup de choses. Ah. Il a donné beaucoup de choses, presque malgré lui, j'imagine, mais c'est très intéressant. Là, on découvre un pan du personnage, des inédits, et c'est fait pour ça. Mais moi, je suis un peu fétichiste avec les livres et les écrivains. Quand je lis un roman, je m'identifiais pas du tout au héros, mais à l'auteur. J'avais envie d'être Drieu ou Fitzgerald plutôt que Gatsby ou Gilles.
Alors, vous êtes à la fois critique littéraire et de cinéma, mais c'est quoi votre vrai... C'est les deux, il n'y a pas à choisir?
Ah non, pour moi c'est pareil, ouais, c'est l'imaginaire, c'est le romanesque. Moi j'aime les films qui racontent des histoires, mais en revanche au cinéma, moi je m'identifie au personnage, pas du tout au metteur en scène.
Et comment vous expliquez ça?
Je ne sais pas. Je trouve ça très romanesque de se dire voilà ce qu'aurait pu être ma vie, voilà ce qu'elle sera quand on voit les films adolescents. Alors que dans un roman, c'est peut-être parce que j'avais déjà envie d'écrire des livres. C'était plus le côté technique en me disant mais comment ce type-là réussit à inventer des choses pareilles. Un des plus grands chocs que j'ai eu, c'est à 15-16 ans de découvrir un Taxi Mauve quand c'est sorti. Je me suis dit mais ce Déon, la vache. Le salaud, j'aimerais bien être à sa place.
C'est drôle que vous en parliez parce que justement, Un Taxi Mauve de Michel Déon, il est sur votre table basse dans une vieille édition.
Dans l'édition de l'époque, je viens de le relire là, cet été.
Comment ça se fait?
Parce que je vais retourner en Irlande et je me suis dit que c'était un bon prétexte et j'ai été vraiment bluffé par le côté romanesque, l'imagination qu'avait cet auteur. C'est un bouquin que je vénère, ça. J'aime bien admirer et savoir quelles sont mes limites.
Vous nous racontez Un Taxi Mauve?
Un Taxi Mauve, c'est un narrateur de 50 ans qui est au fin fond de l'Irlande, on ne sait pas trop pourquoi, et qui rencontre un fils de milliardaire américain dont la sœur vient le voir, et c'est la princesse Sharon, une fille irrésistible. Et il y a une deuxième sœur qui est une actrice de cinéma, et il rencontre un personnage complètement mythomane qui s'appelle Taubelman, avec une fille qui est muette. Et tous ces gens, ces destins vont se croiser et c'est d'un romanesque absolu. Et le film de Boisset est très réussi aussi avec Noiret, Charlotte Rampling et Peter Ustinov. Pour moi, c'est un des romans français les plus parfaits, Un Taxi Mauve.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
On peut passer dans la pièce d'à côté.
Ah bah si vous voulez.
Je vois des piles de livres, notamment une qui menace... Ah non, il y a un support derrière, il y a un tuteur.
Oui, c'est une étagère.
C'est une pile de livres gigantesque qui doit faire 2 mètres. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette pile?
Là, c'est le bordel, parce que c'est des livres que je n'arrivais pas à ranger ailleurs, parce qu'il n'y avait plus de place. Il y a les Caroline Cherry, dans l'édition de l'époque.
Il y a Drieu La Rochelle, L'homme à cheval.
Mais ça, il est là, parce que...
C'est un de vos héros, ça.
Oui, mais vous savez que c'est un livre que voulait adapter Alain Delon.
Ah bon?
Oui, il a toujours voulu faire un film de ça. Et la dernière phrase est magnifique, c'est « L'homme à cheval allait à pied ». Et c'est l'histoire d'un dictateur d'Amérique du Sud déchu.
Je vois Jay McInerney, donc « Bright Light, Big City », et puis Bret Easton Ellis, l'auteur d'American Psycho. Vous avez une passion, ça on le sait, en vous lisant pour les écrivains américains. Qu'est-ce qu'ils ont de plus ou plutôt de différent que les autres écrivains?
Ils ont l'énergie. C'est le style... Et puis la façon de parler du monde contemporain sans que ce soit du reportage, mais déjà de la littérature. Et en plus, McInerney a un côté très fitzgeraldien. Et Bret Easton Ellis, lui, a inventé quelque chose d'unique, mais qui a fait beaucoup de dégâts avec les imitateurs qui ont suivi ensuite. Et son dernier livre, là, White, est vraiment...
C'est un pamphlet, c'est pas un roman, mais...
Oh, vous voyez des pamphlets partout. Mais c'est un état des lieux.
Oui.
D'ailleurs, ce qui était amusant, c'est que toute la presse l'a encensé, mais quelqu'un aurait publié un livre comme ça en France, il se serait fait éreinter partout.
Oui, parce qu'il a un côté un peu réac.
Ah oui, plus qu'un peu, mais moi je pense qu'il a raison sur 9 sujets sur 10.
Ça compte pour vous, un éditeur?
Non. Ça compte pour déjeuner avec lui, mais sinon.
Non, mais je veux dire une maison d'édition pour choisir un livre. Est-ce qu'il y a une vraie patte d'éditeur aujourd'hui ou est-ce que bon...
Il n'y a plus tellement de personnalités de maisons d'édition. Non, parce que vous voyez, c'est comme le football. Les éditeurs et les auteurs passent d'une maison à l'autre, donc on est un peu perdu. Pour les étrangers, en revanche, j'aime bien Philippe Ray, qui publie Joyce Carol Oates, Joyce Ménard. Là, en général, il a... Et pour les étrangers, surtout, Olivier Cohen, Al Olivier, et chez Albin, la collection
Terre d'Amérique,
il y en a trop là.
Le Francis Geffard.
Ah ouais, là je sais pas comment il fait.
Super ce qu'il fait.
Ah mais c'est magnifique, mais on est étouffé tellement il y a de livres qu'on devrait lire.
C'est lui qui nous a ramené Colson Whitehead.
Oui, entre autres. Ouais, non, c'est un dénicheur forcené.
Pardon pour la question là, mais si l'appartement brûle, lequel vous choisissez là?
Il paraît que les livres brûlent très mal. Alors, il n'y a pas à en sauver. C'est là que un auto-da-fé, c'est très compliqué à organiser. Parce qu'à mon avis, il faut mettre de l'alcool à brûler. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile à faire brûler qu'un livre. C'est pour ça que dans les polars de Montalban, le héros qui était censé mettre au feu un livre dès qu'il l'avait lu, ça, c'est vraiment de la fiction.
Je vois des VHS, là. Ça existe encore?
Oui, mais alors le problème, c'est...
Qu'est-ce que c'est?
Je ne sais pas.
Citizen Kane.
Oui, mais le problème, c'est que je n'ai plus de magnétoscope.
Ah oui, c'est dommage.
Et je les garde pour les offrir aux gens qui ont encore un magnétoscope, mais il n'y en a pas des tonnes, comme vous le voyez.
Et là, il y a des cassettes audio, après les VHS.
Mais ça doit être des émissions sur les écrivains que j'avais enregistrées à l'époque, quand ça passait à la radio. Mais je n'ai plus non plus de lecteur de cassettes. Je ne sais plus où est-ce qu'on peut trouver ça.
Ça date de quand, la passion pour la littérature? C'est enfant? C'est plus tard? C'est quoi?
C'est vers l'âge de 15 ans, à peu près.
Avec quel livre?
Avec Les épées de Roger Nimier, surtout. C'est ça qui a fait démarrer le truc. Et aussi, c'était l'époque où Gallimard a lancé la collection Folio et rééditait tous les classiques. Et avec un copain au lycée, on se partageait les achats pour avoir tous les titres qui sortaient.
Et pour finir la collection vintage, il y a une platine vinyle à côté là.
Ouais, mais ça prend trop de place.
Mais elle est débranchée, ça veut dire que vous allez la bazarder bientôt?
Non, ça veut dire que je ne sais pas comment la brancher sur les baffles que j'ai maintenant. Ouais. Il faudrait que je demande à un de mes fils.
Bon, merci beaucoup Eric Neuf.
Merci à vous.
Et je rappelle le titre du livre d'Éric Neuhoff, Très cher cinéma français, c'est chez Albin Michel. Restez avec nous, les libraires de La Voix et Livres sont prêts. Ils sont là avec leurs bonnes idées de lecture. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix et Livres.
Retour dans La Voix et Livre avec l'équipe des libraires de l'émission. Ils défendent le livre au quotidien grâce à eux. Les trottoirs sont bordés de romans. Aujourd'hui, c'est la librairie L'Écriture à Vaucresson qui nous fournit les livres avec leurs deux libraires, Anne-Sophie Rouvelou et Anna Schulman. Salut les libraires.
Salut.
On commence par vous, Anne-Sophie. Quel livre avez-vous lu pour nous aujourd'hui?
Alors, j'ai lu le super La Crête des damnés de Joe Meno qui est paru chez Agulo.
La Crête des damnés, ça fait peur un peu.
Non, mais faut pas. La Crête, c'est la crête des punks en fait. Donc, faut pas avoir peur. C'est pas un roman d'horreur ou quoi. C'est plutôt l'inverse en fait. C'est un roman qui se passe dans les années 90 à Chicago et on fait la connaissance du narrateur qui s'appelle Brian. Brian, c'est l'ado par excellence, c'est-à-dire qu'il s'ennuie en cours, qu'il comprend rien aux adultes et qu'il y a des amours compliqués. Parce qu'en fait, Brian, il est amoureux d'une fille, une de ses amies qui s'appelle Gretchen, qui est absolument flamboyante. Donc grâce à elle, par exemple, dans le roman, vous allez savoir comment vous pouvez vous teindre les cheveux en rose d'une manière superbe.
Ça peut être utile.
Ouais, ça peut être utile quand on est punk. Et en fait, Gretchen aussi, je dis qu'elle est flamboyante parce qu'elle a un petit peu des facilités pour casser la gueule à tous ceux qui lui cherchent des noises. D'accord. Voilà. Sauf que Gretchen, elle a du caractère. Et malheureusement, elle n'est pas amoureuse de Brian. Elle est plutôt amoureuse d'un mec qui s'appelle Tony, qui est un crétin doublé d'un raciste.
C'est
voilà.
Comme ça.
Ouais, pas de bol pour Brian. Par contre, ce qui est bien, c'est que Brian, il a une constante, entre guillemets, c'est la musique. C'est-à-dire que Brian, et ça c'est génial, il écoute du bon gros rock. Quand je dis du bon gros rock, il écoute par exemple AC/DC, il écoute, il y a les Clash aussi, il y a Van Halen, il y a Metallica. Voilà, que du bon gros son. Et en fait, donc dans le roman, vous avez des playlists parce qu'il adore, voilà, il adore penser au groupe et aux morceaux qu'il adore. Et ce qui est sympa aussi dans le roman, c'est que la musique, du coup, là, le punk, ça devient... Enfin, le punk, c'est plutôt du rock. Après, voilà, vous ferez votre choix pour le terme. C'est ce qui permet un petit peu de faire le lien entre tout le monde parce que je ne sais pas si tu faisais ça, Nicolas, à un moment, mais tout le monde fait des compilations sur cassette audio.
Ah, bah, des mixtapes.
Voilà, des mixtapes. Donc, plus sérieusement aussi, la musique, c'est aussi un petit peu une forme de contestation. C'est-à-dire que, par exemple, Brian, je vous ai dit qu'il vivait à Chicago, il vit dans un quartier où bah, tout le monde est blanc, tout est uniformisé, ils sont tous... plus ou moins raciste, et c'est ce qui lui permet aussi voilà, de se rebeller un petit peu. Donc La Crête des damnés, comme ça, c'est un formidable roman sur l'adolescence que je conseille à tout le monde, ado ou pas, punk ou pas, et c'est vraiment absolument drôle et touchant.
Anna Schulman, on n'est pas très loin, c'est une enquête familiale, vous.
Oui, alors, mais on change de playlist, en revanche, on est plutôt dans la musique tango des années 30 espagnole. Donc moi, je vous parle d'un premier roman, un récit plutôt, en fait, effectivement, d'une enquête familiale qui s'appelle « Histoire d'Adrian Silencio » d'Eleonore Puria aux éditions Lattès. Donc c'est l'histoire de Cléo qui nous raconte cette histoire. Elle sent depuis toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa famille, en vrac. Je cite « alcoolisme, dépression, paranoïa, etc. » Une violence toujours rentrée, une tristesse un peu inexpliquée. Et elle se dit que son grand-père, donc le fameux Adrian Silencio, qui est donc un réfugié espagnol arrivé en France pour fuir le franquisme évidemment dans les années 30, c'est peut-être la clé de ce mystère. Donc elle cherche, elle questionne un peu les gens de sa famille, mais tout le monde lui répond « bon, rien à dire, rien de spécial, oui ton grand-père, bon d'accord ». Elle se sent peu à peu rattrapée par les démons familiaux, elle décide elle aussi de partir, de s'expatrier aux États-Unis. Et à son départ, elle décide d'emmener avec elle un vieux cartable que son grand-père avait trouvé dans le métro, rempli de documents, de photos, qui a survécu en fait aux multiples déménagements et qui est resté un peu tel quel, mais qui n'a jamais été ouvert. Donc c'est dans son exil à elle qu'elle va se plonger dans l'histoire de cet autre exilé, donc son grand-père, quelqu'un de sa famille, qui en fuyant la dictature a laissé derrière lui plus que son pays, carrément une autre vie. Donc cette histoire, c'est une histoire banale finalement, parce que c'est celle d'une femme d'aujourd'hui qui part à la recherche de ses racines, de la vie des siens, mais c'est justement parce qu'elle est banale, qu'elle est belle, qu'elle est unique, elle est profondément honnête. Donc on est vraiment avec la narratrice, on est avec elle dans ses doutes, ses questionnements, ses recherches, elle plonge dans le cartable, on est parfois même dans ses rêves, elle nous raconte tout ça, donc c'est une vraie enquête presque policière parce qu'il y a des personnages comme ça qui apparaissent un peu au détour des pages, des rebondissements, des coups de théâtre, des photos aussi qui sont intégrées dans le livre, et c'est une belle histoire de vie, un gros coup de cœur qui m'a beaucoup émue.
Et c'est triste, voilà. Ou c'est optimiste?
Non, c'est plutôt optimiste, c'est la vie, c'est la vie.
D'accord, vous nous rappelez le titre?
Histoire d'Adrian Silencio, d'Eléonore Puria aux éditions Lattès.
Et on va faire plaisir à Anne-Sophie pour terminer. Voilà, ACDC, I Wet Well pour vous faire plaisir, Anne-Sophie, pour votre livre dont vous nous rappelez le titre.
La crête des damnés de Joe Menos, c'est paru chez Agudo.
Un bouquin rock'n'roll. Merci beaucoup les libraires et on passe au rayon jeunesse maintenant. On va retrouver Victor Dolande. À tout de suite.
Europe 1.
Il était une fois.
Dernier chapitre de La Voix et Livre. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour Nicolas.
Et aujourd'hui, vous avez choisi un roman pour adolescents qui s'intitule Summer Kids de Mathieu Perlot.
Oui, je vous emmène en Belgique, à Charleroi plus précisément. C'est le début de l'été pour Antoine et sa bande. Les soirées s'enchaînent, les bouteilles d'alcool passent de main en main. Juillet, il fait beau, un moment ou plutôt une époque géniale pour pas mal d'adolescents. Mais pas vraiment pour Antoine. Ses copains, Mehdi et Alice, savent très bien ce qu'ils feront après le bac. Antoine, lui, il est paumé, encore plus depuis qu'Anna l'a quitté. Chez lui, chez lui, c'est le chaos. En plus, ses parents sont séparés, le nouveau Jules de sa mère ne lui plaît guère. Bref, Antoine broie du noir, il écoute en boucle la playlist qu'il avait préparée pour Anna, Billie Holiday, The Smiths ou encore Radiohead. I'll dress like an
Bon, c'est pas vraiment l'été rêvé pour Antoine,
non,
si je comprends
vraiment.
Bien. Il y a une forme de nostalgie chez lui.
Oui, nostalgie de sa relation avec Anna, nostalgie aussi de ses années lycée qui viennent de se terminer, nostalgie de ce quatuor qu'il formait avec Mehdi, Alice et Anna. Un quatuor qui va probablement voler en éclats, chacun ira dans son université. Ouais. C'est cette transition, ce moment pas évident qu'a voulu mettre en avant Mathieu Perlot dans son roman.
On vous demande d'être déjà quelqu'un. Alors qu'en fait, à cet âge-là, et même souvent plus tard, on ne sait pas très bien qui on est. On dit aux ados, il faut décider maintenant de la personne que tu vas être et de la vie que tu veux avoir. Et ça, c'est à la fois angoissant et pour Antoine en tout cas, paralysant. Ouais. Ce que j'essayais aussi de montrer, c'est que cet été, c'est la fin d'une époque et le début d'une autre époque. On est vraiment dans une sorte de no man's land, comme ça, entre deux moments très importants de la vie. Et donc, c'est ça aussi qui est angoissant chez Antoine et qui le paralyse, c'est que il sent bien que c'est la fin de quelque chose et que c'est la fin de quelque chose que lui aimait beaucoup. Et donc, quelque part, il ne comprend pas pourquoi tout ça doit se terminer.
Bon, il y a quand même quelques petites notes d'optimisme dans ce roman.
Mais
on rigole un peu quand même.
Mais oui, ça vient timidement, un peu comme l'adolescence. Dans son job d'été au sein d'une maison de retraite, Antoine va faire de jolies rencontres. Rencontres aussi surprenantes dans une énième soirée arrosée. L'été passe. Certaines de ses angoisses s'effacent aussi, petit à petit. Nouvelle perspective, nouvelle musique, nouvelle playlist, ici, New Order. On a thousand islands in the sea, I see a
thousand people just like me. Je préférerais Radiohead, mais bon, chacun ses goûts.
Chacun ses goûts, mais en tout cas, lui, il est plus enjoué vers cette fin du roman. Un roman quand même bourré d'humour, notamment dans les dialogues et les SMS que s'envoient en permanence Mehdi et Antoine. Le livre d'une époque qui peut être douloureuse, le livre d'un mal-être. Mais c'est fait avec beaucoup de finesse. Les moments durs ne sont jamais plombants. À lire à partir de 15-16 ans.
Summer Kids, donc, de Mathieu Perlot. Et c'est aux éditions L'École des loisirs. Merci beaucoup, Victor.
À la semaine prochaine, Nicolas.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide précieuse. Merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, pour la réalisation. Et à Xavier Joly pour sa programmation musicale. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. À la semaine prochaine.
À dimanche prochain, Nicolas Caro, bonne semaine. Et dans un instant, c'est un journaliste, écrivain, producteur de cinéma qui s'apprête à se raconter sur Europe 1 au micro d'Isabelle Morizet. Georges Marc Benamou révèle la face cachée de Gaulle dans son dernier ouvrage Le Général a disparu, paru chez Grasset. Il s'est inspiré de la journée du 29 mai 1968, quand Charles de Gaulle fuit Paris en secret pour Baden-Baden.